Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. De nombreuses questions ce matin sur la justice et sur le maintien de l'ordre. D'abord, évidemment, c'est 890 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, les premières comparutions immédiates, mardi et hier. Quelques peines prononcées de prison, mais la plupart avec sursis. Une seule condamnation à de la prison ferme hier, c'est pour un policier. En l'occurrence, un policier qui était hors service, qui a mis en joue des automobilistes avec son arme, alors qu'il célébrait la victoire du PSG samedi soir. Il a été condamné hier à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. Comment vous lisez ces premières peines qui ont été prononcées et la situation de ce policier?
Que ce pays marche sur la tête. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent se disent donc que, après ces violences inouïes, ces images et surtout ces faits commentés partout dans le monde, puisqu'il s'agissait d'émeutes de violence après la victoire du PSG. Du PSG. Donc le résultat, c'est aucun émeutier en prison et un policier, pour des raisons tout à fait justifiées, qui lui est en prison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas termes de message qui est donné à la société.
En termes de message,
après des
imagine.
Violences répétées, réitérées, puisque l'année dernière déjà, ou lors de la finale entre le Real Madrid et le Liverpool, au Stade de France, sans parler des émeutes de 2023. Donc il y a quelque chose qui n'est pas seulement lié évidemment au football, mais qui dit d'un problème majeur dans une partie de la jeunesse. Et aussi de violence de
l'autre. On va y revenir parce que vous dites, et vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux, pour vous, le mal est plus profond. Il dit l'état du pays. Mais quand même, sur cette histoire de policier, on peut aussi comprendre qu'aux yeux de la justice, le fait qu'il soit policier, le fait que ce soit son arme de service, rende la peine plus dure que pour d'autres.
Le débat ne porte pas sur la condamnation concernant ce policier qui a sorti son arme. Il était ivre, il était hors service, et il a menacé. J'ai écouté les témoignages de ceux de celles qui ont été
mis en jeu.
C'est tout à fait normal. Mais c'est le message général qui est donné à la société. On donne le sentiment qu'on condamne un policier et c'est justifié, mais que ceux qui ont brûlé, cassé, enfin il y a eu des dizaines, des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre, parmi aussi les supporters, on a cassé, il y a eu indirectement ou directement également des morts. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette situation est particulièrement grave, on ne peut pas la nier, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on s'habitue au fond en France à ces faits, inédit, parce que dans les autres pays, ça n'arrive pratiquement pas, et il faut
ou
surtout...
Pas dans cette ampleur. Là, ou pas avec autant de casse.
Et pas avec autant de casse, et pas à chaque fois, et avec le sentiment qu'on s'y prépare. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de force de l'ordre. 9000 policiers à Paris, 22000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que les responsables de l'ordre public, à commencer par le ministre de l'Intérieur, savaient.
Alors prenons justement les choses les unes après l'autre. J'allais dire, cette préparation, Laurent Nunez d'ailleurs, votre successeur lointain au ministère de l'Intérieur, il dit globalement la situation était sous contrôle. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Le mot globalement est à éviter en général, mais parce que je suis d'une très vieille culture et que j'ai déjà un certain âge et que les bilans globalement positifs, ça fait un peu peur. Ça rappelle une phrase de Georges Marchais concernant l'Union soviétique, mais vous l'étiez
pas née, voilà, Apolline de Malherbe. Globalement, voilà.
Non.
Globalement, c'est toujours louche.
Lui, il est en charge de l'ordre public. Je sais que le maintien de l'ordre public, c'est un des sujets les plus compliqués à traiter, notamment quand il y a des jeunes dans la rue. Mais ça donne un sentiment, c'est ça qui est le plus terrible, d'impuissance. Or, notre doctrine de maintien de l'ordre sur ce type de fait doit être totalement revisitée. Il faut tout changer, parce qu'au fond, l'idée, c'est il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans les commissariats le soir même. Alors qu'il faut plutôt s'inspirer, par exemple, de la doctrine britannique.
C'est quoi la doctrine britannique ?
Elle agit sur le long terme, c'est-à-dire c'est l'alliance du renseignement, et là je pense qu'il faut des groupes dédiés, capables d'infiltrer ces groupes, c'est l'analyse évidemment des réseaux sociaux, c'est le rôle de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, des enquêtes qui sont forcément plus longues, mais qui donne des résultats. Là, on donne le sentiment de vouloir interpeller tout de suite. On interpelle ceux qui courent le moins vite, ceux qui ont moins d'expérience, souvent des très jeunes, des mineurs, des primo-délinquants, c'est-à-dire qui n'ont pas de casier judiciaire, et ça donne les résultats que l'on connaît en termes de justice. Et ça donne donc un sentiment général d'impuissance. Donc, le renseignement, l'exploitation numérique, des enquêtes
prolongées, dites-vous,
des poursuites systématiques, des peines évidemment plus lourdes, voilà ce dont nous devons nous inspirer. Qui est pratiqué dans d'autres pays et notamment en Angleterre.
Parmi les propositions d'efficacité, justement, Bruno Retailleau dit par exemple qu'il faut la reconnaissance faciale. C'est aussi ce que dit Jordan Bardella. Est-ce qu'il faut accepter la reconnaissance faciale sur toutes les caméras?
Nous vivons dans un monde numérique où nous sommes en permanence filmés par d'autres. D'ailleurs, souvent, les émeutiers eux-mêmes, les casseurs, filment ou les policiers ou ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a une espèce, au fond, de joie, je mets des guillemets évidemment.
De trophée. L'idée de rapporté par la vidéo. Un trophée, c'était le mot utilisé par Laure Becquiot, la procureure de la République.
Donc nous vivons dans ce monde numérique. Donc il faut évidemment utiliser tous les moyens sous contrôle de l'État, parce que nous sommes un État de
donc,
droit.
Donc reconnaissance faciale, pourquoi pas?
Exploitation numérique, renseignement, enquête prolongée, poursuite systématique pendant plusieurs mois. Parce que les enquêtes, elles sont forcément longues. Là, on a sans
doute Il n'y a aucun bilan. Nous avons fait la demande avec les journalistes d'RMC et de BFM TV de ce qu'il s'est joué il y a un an. Parce qu'il y a un an, au fond, quasiment même contexte et même situation, il y avait eu déjà, après la victoire du PSG, de très lourdes violences ou casses dans Paris. Et à l'époque, d'ailleurs, vous-même, vous aviez à l'époque condamné. Vous aviez dit qu'il fallait sans doute des peines plus fortes. Vous aviez à l'époque, Gérald Darmanin, qui était déjà ministre de la Justice, qui déjà avait dit peut-être qu'il faut d'ailleurs supprimer le sursis et passer directement à des peines de prison. Elles ne sont pas adaptées. Bref, il y avait déjà un certain nombre de points qui avaient été évoqués. Et l'on a demandé, nous, à la justice, au ministère de la Justice, au parquet, un an après, quel était le bilan, après les interpellations, des peines prononcées et des peines exécutées pour les casseurs d'il y a un an. Ce bilan n'a jamais été fait. Il n'y a pas eu ce travail. Il n'a pas été fait, ni par la justice, ni par l'intérieur, ni par personne.
Et là, vous parlez d'un an, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on fait face à ce type de phénomène. Nous l'évoquions il y a un instant. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'où ce sentiment d'impuissance. On s'interroge souvent pourquoi il y a une crise de la démocratie, pourquoi il y a une crise de la politique, pourquoi il y a une crise de la représentation, pourquoi les extrêmes montent. Enfin, tout simplement parce que on donne le sentiment que l'État ne fonctionne pas, en tout cas dysfonctionne. Donc là, il y a un projet de loi qui arrive, qui avait été retardé pour notamment s'attaquer avec des peines plus lourdes à ceux qui utilisent les fameux mortiers, qui sont des armes
qui sont officiellement interdits, hein.
Et qui sont, oui, donc il y a bien un problème à la fois dans la vente.
C'est la loi Riposte que
c'est
vous
la
évoquez.
Loi Riposte, donc celle-ci, elle doit être votée. Il faut une liste des casseurs récidivistes. Il faut donc ces groupes de renseignement dédiés que j'évoquais il y a un instant. Il faut une meilleure coordination du renseignement territorial que moi j'avais remis en place, de la cyber, de la police judiciaire, des responsables de l'ordre public. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que moi-même je refais ces propositions depuis déjà plusieurs années. C'est que à chaque fois qu'il y a un événement, à ce moment-là, tout le monde vient et se précipite pour dire voilà ce qu'il
Emmanuel
faut faire.
Emmanuel Macron dit c'est insupportable, nous n'accepterons pas, ras-le-bol, c'est fini. Mais c'est quasiment mot pour mot ce qu'il disait il y a un an.
C'est un papier-collé de ce qu'il a dit, je peux le comprendre, à l'Élysée, accueillant il y a un an déjà la première victoire du Paris Saint-Germain. Nous avons eu les émeutes de 2023. Nous avions pris un certain nombre de dispositifs. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, en 2013, lors de la première victoire du Paris Saint-Germain, du championnat de France, sous la Ligue, sous le règne Qatari. Il y a eu au Trocadéro des incidents particulièrement graves. Il y a eu d'ailleurs un jeune homme, si j'ai bonne mémoire, qui a été tué. C'était uniquement dans le cadre de ce quartier-là.
C'était ces scènes, notamment autour effectivement du Trocadéro. Il y avait ce bus de touristes qui avait été encerclé par des jeunes qui avaient volé les valises. C'était une scène de chaos.
Toutes les mesures que je rappelle, qu'il faut mettre, donc qui est un changement de doctrine du maintien de l'ordre, qui est une utilisation différente du renseignement, qui est l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça ne va pas régler les problèmes d'il y a deux jours ou il y a trois, quatre jours. Tout ça doit être mis en œuvre, c'est du moyen terme. Et puis ensuite, évidemment, il y a des problèmes plus lourds de la société française pour expliquer ce qui se passe dans notre société.
Pourquoi est-ce que des jeunes cassent? Pourquoi est-ce que pour fêter une victoire, on casse?
Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République. à l'école, dans la famille. C'est-à-dire que si on ne rétablit pas l'autorité républicaine dans ce pays, mais c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la famille. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions très lourdes et qui touchent également aux allocations familiales concernant les familles, les parents, qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en capacité de tenir leurs enfants. Enfin, des mineurs dans la rue qui cassent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est de la responsabilité bien sûr de la société, mais c'est aussi de la responsabilité
le plus jeune
parents.
Des personnes, des mineurs qui ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche à 14 ans et eux ne sont pas encore passés devant la justice. Il n'y a pas de comparution immédiate pour les mineurs, je le reprécise. Les mots que vous avez dit hier, c'est il y a un combat qu'il faut mener, c'est faire France contre la haine de la France. C'est mot pour mot faire France, l'expression qu'a utilisé Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. Il dit aussi, c'est une question, il a dit intégration, c'est aussi un mot que vous utilisez, et faire France. Mais ça passe par quoi, faire France?
D'abord, on ne soutient pas une équipe de football, on ne soutient pas notamment le Paris Saint-Germain, qui est une formidable équipe et en plus plutôt sympathique, hein, en brûlant la France. Donc il y a une contradiction fondamentale. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui brûlent et cassent et s'en prennent aux forces de l'ordre étaient eux-mêmes des supporters du Paris Saint-Germain. Le lendemain, sur le Champ de Mars, au moment de l'accueil du Paris Saint-Germain, les choses étaient très organisées et au Parc des Princes, ça a été une formidable fête.
Et où là, il s'agit
pour
davantage,
célébrer le football.
On est davantage sûr qu'il s'agit vraiment de supporters.
Oui,
à ce moment-là,
les choses étaient cadrées. Organisé. Mais il y a dans ce pays depuis 25 ans. Peut-être, ça avait éclaté à la face du pays. Rappelez-vous de la France black-blanc-beurre en 1998, après la belle victoire des Bleus. Mais trois ans après, lors d'un match amical France-Algérie, on avait sifflé la Marseillaise, on avait envahi le terrain. C'était le message absolument contraire. Donc il y a
Donc, mais on a l'impression d'un jour sans fin, pardon.
Et les mots.
Quand vous égrenez tous ces
et
épisodes.
Les mots et les faits. Oui, parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Mais évidemment, il faut le dire. On ne protège plus ce pays, son drapeau national, son hymne, ce que nous sommes. Moi, ça a toujours été mon discours. Je me suis toujours défini. Ça m'a valu parfois dans mon camp politique, la gauche, beaucoup d'attaques. Mais la République, le patriotisme et je ne parle pas d'intégration, l'assimilation. C'est-à-dire que c'est
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous distinguez intégration et assimilation?
Moi, je suis un assimilé. Je suis né à Barcelone. Je me suis naturalisé. J'ai été député,
vous
maire,
avez demandé
ministre,
la nationalité
et premier ministre.
À quoi? À 16 ans, 18 ans?
À 18 ans. Donc et j'aime ce pays parce que j'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime sa langue, j'aime ses valeurs, tout ce qui, comme on dit, fait commun ou fait France, c'est vrai. Vous avez raison, Apolline de Malherbe. Souvent des mots bateaux.
J'ai l'impression d'entendre le même mot Raphaël Glucksmann que vous-même, probablement il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dix ans.
Et à la tribune du Parlement.
Ou François
des
Hollande, lorsqu'il a été élu et qu'il a dit « moi je vais réconcilier les Français ».
Et donc c'est ce discours, et parfois y compris ce disque rayé, j'en fais partie, qui crée ce sentiment d'impuissance. Mais il y a pire qu'un sentiment d'impuissance, enfin il y a une réalité, c'est un sentiment profond de colère. Mais il suffit pas de commenter, et y compris ce que je suis en train de dire ne va pas régler les problèmes ou les décisions de justice concernant les casseurs. Mais si on ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire notre discours sur l'école et la laïcité, si ensuite on ne reconstruit pas nos quartiers, le peuplement, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre dans les mêmes quartiers, dans les mêmes cages d'escalier, dans les mêmes villes, des populations qui viennent de l'immigration.
Une
là, il s'agit
quoi,
de Français.
De ghettoisation, c'est ça ce que vous dites?
Moi, j'avais parlé, ça avait fait beaucoup de bruit, il y a 15, 20 ans, d'apartheid territorial, social, ethnique et religieux. C'est tout ça qui nous pète à la gueule.
Mais est-ce que vous voulez dire aussi que ces jeunes qui, parfois, ont vécu dans ce que vous appelez des apartheid, c'est-à-dire, en fait, le sentiment de ne pas pouvoir avoir accès au centre de Paris, à un certain nombre d'écoles, d'études, d'emplois. Est-ce que c'est aussi cette colère-là qui ressort aujourd'hui? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut les excuser?
Je ne cherche jamais à excuser. Je crois dans la responsabilité collective, je crois aussi dans la responsabilité individuelle. La France, l'éducation nationale, l'école de la République, offre beaucoup
d'opportunités. Est-ce qu'elle offre encore cette opportunité? Est-ce qu'elle fonctionne encore aujourd'hui?
Non, elle dysfonctionne bien évidemment aujourd'hui. C'est pour ça que le grand débat.
Encore une fois, Raphaël Glucksmann hier matin, à peu près sur le même genre de diagnostic que vous, disait longtemps on allait dans l'école privée parce que on y allait par conviction religieuse. Aujourd'hui, on y va presque pour protéger ses enfants ou pour espérer qu'ils auront une bonne éducation. Ce qui veut dire que l'école publique ne fait plus son boulot.
Elle ne fait pas son travail. C'est pas la faute des enseignants. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va. La massification de l'école, la numérisation de notre société, tout cela a évidemment énormément changé. Mais l'école, ça doit être l'un des grands débats, l'un des grands sujets de 2027. Mais si on continue, parce que là il s'agit de jeunes Français, si on continue à travers des politiques migratoires qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas gérées, à accumuler dans les mêmes quartiers, dans les mêmes départements, des populations pauvres et entrant en grande difficulté, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des formes de contre-culture qui s'organisent et qu'on ait de plus en plus ce type de problème.
Vous avez écouté, j'imagine, les propositions de Gérald Darmanin ou de Gabriel Attal. Gérald Darmanin, il dit qu'il faut un moratoire, faire pause sur l'immigration pendant 3 ans. Gabriel Attal, lui, dit qu'il ne faut que de l'immigration de travail et durcir les conditions du regroupement familial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux propositions?
Il y a quelques années, à ce même micro, j'avais parlé devant vous d'immigration zéro. Nous n'avons pas besoin d'une immigration de travail. Alors peut-être il faut décoder ici ou là, parce qu'on sait que dans la restauration, dans l'agriculture, on peut avoir besoin.
Donc là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec François Ruffin, par exemple?
Oui, ils sont d'accord avec moi.
Vous l'avez dit avant, peut-être.
J'avais été fustigé, mais c'est pas le sujet. Mais il y a un texte qui va être adopté définitivement par le Parlement européen, par l'Union européenne, le pacte migration-asile.
Avec l'idée notamment de ces hubs, en quelque sorte.
Je suis européen. Enfin, l'Europe se dote d'un certain nombre d'outils et de moyens pour protéger nos frontières extérieures et pour pouvoir expulser plus efficacement et pour réformer aussi l'asile. Eh bien, il faut soutenir cela. Et or, je vois, y compris à gauche et même au centre, des contradictions sur ce sujet-là. On a un pacte européen qui a été, c'est vrai, porté beaucoup par la droite, mais que les sociaux-démocrates danois ou maltais soutiennent, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. Bon, donc, voilà, là, on a un outil. Donc, il faut être clair sur ces sujets-là. Mais ça, ce sont des sujets de moyen et de long terme, mais qui sont indispensables si on ne veut pas voir se répéter en permanence tous les ans, parce que j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera souvent des trophées européens. On ne va pas avoir à chaque fois, mais c'est vrai pour le football, c'est vrai à d'autres occasions. Nous l'avons vu, nous l'avons commenté il y a un instant.
Manuel Valls, qui est votre candidat?
Moi, pour le moment, aujourd'hui, je n'ai pas de candidat.
Quand vous entendez, on vient de citer les propos de Gabriel Attal ou de Gérald Darmanin, quand vous voyez Édouard Philippe, quand vous voyez Raphaël Glucksmann hier à ce micro, qui avait honnêtement un discours sur le fond pas très éloigné du vôtre, quand vous voyez les envies d'un François Hollande ou d'un Bernard Cazeneuve, est-ce que vous estimez effectivement que l'un de ceux-là pourra être le candidat quoi? Une sorte de centre qui puisse être considéré comme un centre-gauche?
Je suis un peu désespéré face au jeu politique. Aujourd'hui, enfin écoutez, le niveau de nos déficits publics, de la dette, la situation de l'école, la violence dans notre société, le niveau de chômage qui reste toujours très élevé malgré un certain nombre de progrès, la crise politique et morale qui doit beaucoup, mais pas seulement, à la dissolution provoquée par le président de la République. Je pourrais vous dire l'état de nos territoires ultramarins, parce que je les ai toujours au cœur. Sur tous ces sujets-là devraient être au cœur, mais avec du débat, avec des solutions, des propositions, une méthode pour gouverner. Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Jean-Michel Blanquer, François Baroin, Bruno Retailleau et bien d'autres devront gouverner ensemble. Ils nous mentent, ils ne disent pas la vérité quand ils disent « nous allons vers une candidature unique, la gauche, la droite vont l'emporter ». Non.
Tout cela pour vous, en réalité, ont vocation à travailler ensemble.
Mais avec une méthode, en disant comment ils vont le faire, avec quel type
à
de coalition.
En se disant « on se met d'accord sur un programme et on
oui,
y va ».
Oui, et puis il faut demander un mandat aux Français, sur tous les sujets que nous avons abordés de manière concrète. Le président ou le candidat dit « je vais régler à moi tout seul les problèmes ». Ça n'est pas vrai. Donc il faut une coalition, ce qui n'a jamais été fait parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait, avec un projet, un calendrier, un agenda, une méthode. Édouard Philippe le propose, l'utilisation du référendum. Donc il faut changer totalement. Et moi je prendrai position quand tout ça sera sur la table.
À l'automne. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions. 8h47 sur RMC BFM TV.